le clergé, la noblesse, le tiers-état. Examinons en détail ces trois ordres dont la composition est moins simple qu'on ne l'imagine. Le clergé est double. Celui qui est issu du peuple en conserve les habitudes et surtout la pauvreté et l'humilité. Celui qui vient de l'aristocratie demeure excessivement attaché aux biens terrestres du royaume de France qui ne constituent pourtant pas, selon le Nouveau Testament, le meilleur passeport pour le royaume des cieux. Premier ordre du royaume, le clergé est fort riche. Il possède à peu près 10% des terres, sans compter les biens immobiliers, à la ville comme à la campagne. Et puis, il y a la dîme, cet impôt si injustement ressenti par ceux qui le paient. La dîme a été instituée par Charlemagne. Elle consiste, pour les possesseurs de terres, à verser à l'Église une partie de ce qu'elle produit, récolte ou animaux. Cette part versée en général à celui qui est chargé de l'apercevoir, le décimateur, titulaire d'un office, est environ de 10%. Mais le décimateur en conserve souvent pour lui une partie importante, ne donnant au clergé modeste que la portion congrue, du latin congrus, convenable, celle qui est tout juste nécessaire pour vivre. Qui donc jouit des immenses richesses du clergé ? Non pas le bas clergé à la portion congrue, qui travaille, trime et va qu'à ses occupations d'enseignement, d'état civil, de secours aux nécessiteux, mais le haut clergé, dont la plupart des membres sont issus de la noblesse. Pour devenir archevêque, évêque ou bien chanoine, il faut prouver qu'on appartient à une noble lignée depuis plusieurs générations. Ces prélats vivent dans l'opulence. Ce sont des seigneurs qui profitent des bénéfices de leurs abbayes, de leurs terres et de l'argent que leur envoie le bas clergé qui, lui, n'en peut plus de cette injustice et se rapproche du tiers-état. La noblesse. Ah, la noblesse, qui a tant fait rêver Monsieur Jourdain, personnage du bourgeois gentilhomme de Molière. Quel fantasme de grandeur, de magnificence n'a-t-elle pas fait germer dans les chaumières ou dans les bergeries ? Quelle naïveté étourdie n'a-t-elle pas couverte de ridicule ? Quelle médiocrité elle a travestie de sa particule ? La noblesse, élégance des manières, mais arrogance. Esprit peut-être, savoir, mais suffisance. C'en est assez pour le tiers-état, il faut la mettre au pas. Mais quelle est-elle cette noblesse que le peuple se promet de pendre à la lanterne ?
Ah, ça ira, ça ira. Le bien connu, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, sera écrit en mai 1790 par un ancien soldat, devenu chanteur à la mode, Ladré. Lui-même ne faisait que reprendre une célèbre contredanse composée en 1786 par un violoniste nommé Bécourt. Il l'avait intitulé « Le Carillon National ». Marie-Antoinette adorait l'interpréter au clavecin. L'expression elle-même, « ça ira », est tirée d'un tic de langage de Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, le rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, l'homme au verre de lunettes cassées, qui répétait comme pour se donner du courage lorsqu'on lui parlait de la Révolution américaine, « Ah, ça ira, ça ira !»
Les nobles, ce furent d'abord ceux qui payaient l'impôt du sang en allant se faire tuer sur les champs de bataille. Ils étaient donc dispensés des autres impôts. Mais l'impôt du sang, chez ces aristocrates, qu'on appelle les nobles d'épée, s'est fait rare au fil des siècles, sans toutefois se trouver remplacé par l'impôt en espèces sonnantes et trébuchantes. Cette noblesse d'épée décorative vit à la cour, où elle bénéficie des grasses pensions octroyées par le roi. Pension qu'elle dépense si rapidement. Il faut briller à Versailles et qui lui fait recourir à l'emprunt. Ou bien elle vit en province, sur ses terres, dont les faibles revenus ne lui garantissent pas un train de vie bien élevé. Il existe une autre noblesse, méprisée par la noblesse d'épée. La noblesse d'épée, celle qui s'estime la vraie, la seule, celle du muscle, des gros bras et de la chevalerie de Crécy, Poitiers ou Azincourt. Il s'agit de la noblesse de robe. Elle est composée en grande majorité de bourgeois qui ont amassé la fortune nécessaire pour s'acheter un rôle, un office dans la justice, les finances ou le conseil royal. Il fallait, pour acquérir un titre de noblesse, en général associé à un office, payer l'équivalent de 2 millions d'euros. Cette noblesse occupe les parlements et l'administration. C'est une noblesse active qui cherche à devenir indépendante du pouvoir royal, à combattre l'absolutisme sous toutes ses formes, afin de disposer des leviers de commande du pays. On peut donc parler, non pas de la noblesse, mais des noblesses, dont les unes jalousent les autres. Cependant, dès que leurs intérêts communs sont menacés, l'impôt qu'on veut leur faire payer, les privilèges qu'on veut leur enlever, elles font bloc contre l'adversaire. Et l'adversaire, se découvrant de plus en plus dans les années qui précèdent 1789, elles se sont refermées sur elles-mêmes. La noblesse est alors ressentie par le petit peuple comme une caste à abattre, parce qu'elle s'octroie tous les biens, tous les pouvoirs et s'arroge tous les droits. Attention, si vous entendez par tiers état le menu peuple, celui des pauvres, des miséreux, des petites gens, des petits métiers, des ouvriers, vous vous trompez. Dans l'esprit de Seyès et de sa brochure, ce tiers état est si peu intéressant qu'on n'en parle pas. Ça vous révolte un peu, non? Le tiers état. Seyès a cru le définir en le résumant dans son hâtif « tout ». Mais tout n'est pas si simple. Si le tiers-état compose effectivement tout ou presque tout, à savoir 96% de la population française, il est bien plus composite que le clergé et la noblesse. En effet, le tiers, ce sont les pauvres paysans, sans doute, les manœuvres, les ouvriers sans le sou, les va-nu-pieds, les traînes misères et les traînes savates, les artisans modestes, les compagnons, les apprentis, les porteurs d'eau, les domestiques. Mais c'est aussi le procureur, le notaire, l'avocat ou l'apothicaire, c'est le médecin, le chirurgien, le greffier ou le magistrat. C'est l'essayiste et l'écrivain. Toute une petite et moyenne bourgeoisie soucieuse de son ascension sociale et qui sait, par de multiples détails dans sa vie quotidienne, montrer sa différence par rapport à ceux qu'elle prend de vitesse. Le tiers-état, c'est aussi la bourgeoisie de l'industrie, celle des fabriques, des marchands, des grossistes et des détaillants aux énormes revenus. C'est enfin la bourgeoisie d'affaires, la riche bourgeoisie, celle dont la fortune est telle qu'elle prête de l'argent au trésor royal. Celle qui perçoit les intérêts de la dette publique. Et ces intérêts, ce sont des centaines de millions de livres par an. Alors, qu'est-ce que le tiers-état, monsieur Seyès? Ne serait-ce pas, sous votre plume, un malentendu? Et dans votre esprit, qui n'a sélectionné que la bourgeoisie, ce tiers qui aspire à devenir quelque chose dans l'ordre politique, ne représenterait-il pas le tiers du tiers?